Maintenant, un bon podcast.
Maintenant, un bon podcast.
Et maintenant, un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous, encore une fois, avec grand plaisir, en compagnie de Malcolm Braff. Rebonjour Malcolm.
Rebonjour.
Voilà, et alors là, on est sur un truc, c'est du pré-méga-buzz, on va dire. Puisqu'il est apparu que Wolfgang Kramer et Michael Kiesling sont rentrés en contact avec Gameworks et ont proposé un jeu qui va finalement s'appeler Tikal 2. C'est assez fort, puisque Tikal est déjà un jeu qui a eu beaucoup de succès. C'est quoi cette histoire de Tikal 2?
Voilà, quand on a vu le prototype de Kramer et Kiesling, le jeu nous a beaucoup plu, et en y réfléchissant, on s'est dit, mais c'est incroyable, ça pourrait tout à fait être Tikal 2. Okay. Hein, parce que le thème s'y prête bien, on est en train d'explorer, de découvrir des salles d'un temple cette fois-ci, mais bon, à Tikal on découvrait des temples dans la jungle, mais c'est aussi des temples qu'on découvre au fur et à mesure qui sont sur des tuiles hexagonales. Il y a aussi un truc pour passer d'une tuile hexagonale à l'autre, c'est les mêmes auteurs.
Donc ça veut dire que le thème n'était pas le même,
C'était pas le thème, mais avec Sébastien, on a tout de suite vu que ça pourrait être Tikal 2, et on en a parlé à Wolfgang Kramer, qui a été tout de suite emballé par l'idée, et puis voilà, on est parti là-dessus. Ouais.
Et donc, comme tu l'as dit, autant dans Tikal 1, on va dire, puisque maintenant il y en a un 2, donc on peut dire 1, on allait à la rencontre de découvertes dans la jungle. Là, Tikal 2 se base sur l'exploration de la découverte d'un des temples.
Exactement, c'est un des temples, c'est un temple oublié, un temple perdu, qu'on n'avait pas vu lors de la première exploration il y a 10 ans. Et maintenant, 10 ans après, on y retourne dans la jungle parce qu'on a vu par image satellite ou je ne sais pas comment qu'il y avait un temple perdu et qu'on va explorer, découvrir, et dans lequel on va évidemment ramasser autant de trésors qu'on peut, s'enrichir au nez à la barbe de ses adversaires.
Ok, donc le plateau, donc on retrouve évidemment cette tuile hexagonale emblématique de Tikal 1. Et donc on a pas mal de matériel. Est-ce qu'on peut repasser autour du matériel? Il y a plein de matériel autour du plateau.
Voilà, alors... Il y a le plateau qui effectivement a cette aire avec des tuiles hexagonales qui vont se poser dessus et qu'on découvre le temple au fur et à mesure avec les salles qui le composent. Il y a la fameuse Kramer LST qui entoure le plateau et qui nous permet de scorer nos points, de marquer nos points. En bord du plateau, c'est-à-dire sur le, il y a des tuiles action. Qui se trouve dans 6 villages qui se trouvent autour du plateau. Donc on voit ici que sur la largeur, il y a de chaque côté un village, et sur la longueur du plateau, de chaque côté 2 villages. Et chaque village présente 4 actions disponibles qui sont sur des tuiles qu'on mélange et qu'on met au hasard au début de la partie.
Et tout le monde a accès à ces actions?
Tout le monde a accès à ces actions, on va voir comment. Sinon, j'ai des jetons trésors qui sont aussi posés sur le plateau. J'ai des jetons clés parce que parfois je peux passer dans une salle en découvrant un passage secret et pas en passant par une porte qui est marquée sur la tuile. J'ai justement des tuiles, deux types de tuiles. J'ai les salles foncées, on va dire, en tout cas maintenant pour l'instant dans le prototype, et j'ai les salles claires qui elles ont des portes. Les salles foncées n'ont pas de porte. Donc chaque salle claire, il y a 5 couleurs de salles. Et les salles présentent une ou deux portes qui permettent de passer.
D'accord.
Donc il y a des portes jaunes, des portes vertes, des portes bleues, des portes grises, enfin voilà, en 5 couleurs.
Et donc le but, c'est de ramasser des trésors.
Le but, c'est de ramasser des trésors, de faire des points de diverses façons, que je vais essayer un peu d'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore des cartes spéciales, que dans certaines salles, on peut trouver une carte spéciale qui nous donne un peu d'options. Le plateau présente aussi une aire de... Là, ici, avec un petit hydravion, une aire où on va pouvoir vendre des trésors qu'on a récupérés de manière à scorer des points, avec un prix de vente qui va varier de vente en vente selon un petit mécanisme tout simple.
On a un plateau individuel.
On a un petit plateau individuel qui est notre dépôt, si on veut, où on peut stocker les trésors... empiler les actions au fur et à mesure qu'on les réalise, qui donne un rappel d'un scoring de points, une petite aide de jeu. On peut stocker aussi des diamants, donc il y a des diamants, pour l'instant en tout cas ce sont des diamants, qui correspondent aux couleurs des salles.
On peut les stocker sur son plateau quand on les a découverts.
On peut les stocker sur son plateau.
Okay. Donc typiquement un tour de jeu typique.
Alors le tour de jeu typique, alors ouais, je finis encore le matériel. Il y a un fleuve qui fait le tour du plateau, le long duquel se trouvent les différents villages qui présentent les actions possibles, les actions disponibles. Et on a un petit campement qui va se déplacer de village en village pour prendre les actions. Et donc en suivant le cours du fleuve. On voit qu'à un moment donné, le fleuve s'arrête parce qu'il sort du plateau. Et donc on va devoir gravir la colline pour réemprunter le cours du fleuve qui démarre de l'autre côté du plateau. Et évidemment, le fait de gravir la colline fait qu'on doit payer une taxe de passage. Donc en fait, on tourne autour du plateau avec son campement pour aller prendre les actions. Mais si on va trop vite, on va devoir payer trop souvent des taxes de passage. Mais évidemment, l'action qui nous intéresse, elle est trois villages plus loin. Et donc on n'hésite pas à sauter de village en village pour aller plutôt que de rester dans le village et de prendre tour à tour les actions qui s'y trouvent. Voilà. Donc c'est un peu le principe du jeu. Alors j'ai un marqueur de score qui est sur la piste de score sur la Kramer Leiste. Et j'ai un chef d'expédition qui se trouve sur le plateau à l'extérieur du temple. Et j'ai des ouvriers, enfin des adjoints qui vont m'aider à entreprendre les fouilles dans le temple. Mon tour de jeu, c'est très simple. En premier lieu, je choisis une action qui se trouve sur le pourtour du plateau, sur cette huile d'action.
Là où le campement est arrivé.
Alors si les actions disponibles dans le village où je me trouve ne me satisfont pas, je peux changer de village en empruntant le cours du fleuve, comme j'expliquais avant, sachant que parfois, si je vais trop loin, je dois payer une taxe qui se trouve être un diamant. Donc c'est la première action, je prends une action, j'en réalise les effets. Alors les actions, c'est prendre un trésor, prendre une clé, découvrir une nouvelle salle claire, découvrir une nouvelle salle brune, faire un décompte de points X, et voilà, il y a plusieurs types d'actions. Prendre un diamant. Donc je fais une de ces actions. Ensuite de quoi, à l'aide de mon chef d'expédition, je me déplace dans les salles du temple auxquelles j'ai accès et pour y laisser un collaborateur qui va tout de suite scorer des points. D'accord. Alors sur chaque salle, il y a un bonus. Donc si je suis le premier à m'y rendre, je vais bénéficier du bonus disponible. Ensuite, je compte les points selon les... Je compte aussi les portes qu'il y a sur la tuile. Donc ici, je vois que je suis arrivé dans une salle avec des portes grises. Il y a un bonus de 1 point au centre, donc je marque le bonus de 1 point. Et ensuite, je compte les portes grises. Donc ça me fait 1 point plus 2 portes ici, donc 3 points. Plus tard dans le jeu, si je me redéplace dans une salle grise, je vais, si j'y arrive, scorer le bonus. Par contre, si un autre joueur y est déjà, je peux y aller dans la salle, mais je ne vais pas scorer le bonus. Par contre, je vais recompter toutes les portes grises sur des salles dans lesquelles un de mes collaborateurs se trouve. Donc en fait, ici, voilà, il y a une nouvelle salle grise avec une porte grise. Je vais scorer un point pour cette porte et je vais rescorer les 2 points de la salle où j'étais allé précédemment. Donc voilà, les couleurs se construisent comme ça. Comment on a accès à ces salles? Avec des diamants. C'est-à-dire qu'on a des diamants qu'on insère dans un mécanisme. La porte s'ouvre. Donc tant que je dispose du diamant devant moi, je peux passer la porte de la couleur correspondante.
Comment est-ce qu'on perd ce diamant alors si...
Alors on le perd en payant la taxe.
C'est ça.
On le perd en payant la taxe, c'est-à-dire en gravissant la colline avec son campement. Et les diamants sont assez rares, on peut en prendre parmi les actions qui sont disponibles, sachant que le diamant, je ne veux peut-être pas le prendre devant moi pour le passage des portes et pour payer la taxe du parcours de village en village, mais je veux peut-être le retourner face cachée dans mon dépôt parce qu'il va me servir à faire des points lors de deux décomptes, un en milieu de partie et un en fin de partie, parce que la partie se joue en deux mi-temps, si j'ose dire. Une première mi-temps où toutes les actions vont être épuisées autour du plateau. Et là, le plateau sera à demi-découvert. Ensuite, on remélange toutes les tuiles actions. On les redispose autour du plateau. Et on refait une deuxième fois ça, jusqu'à épuisement des tuiles. Et à ce moment-là, le plateau sera entièrement découvert. Sauf une salle qui sera un emplacement qui sera vide et qui verra automatiquement arriver la dernière tuile qui est la salle du trésor. D'accord. Où il y a beaucoup beaucoup de points à se faire, mais c'est une salle qui n'a pas de porte. Ouais. Et donc on devra, et ça c'est un des aspects du jeu, c'est que en posant les tuiles au fur et à mesure du jeu, on va contrôler l'endroit où va arriver la salle, de manière à y avoir accès avec une porte, ou j'aurais gardé une clé pour la fin, pour être sûr de pouvoir m'y rendre, parce que voilà, des fois on n'a pas accès avec les portes, et ces clés qui sont par contre un one shot, c'est-à-dire je crame la clé pour y aller, sont parfois bien utiles. En gros le jeu.
Et le jeu se termine à partir du moment où cette tuile-là est arrivée ?
Non, pas forcément. Le jeu se termine quand toutes les actions sont épuisées. Comme parmi les actions disponibles, il y a des actions qui permettent de découvrir des nouvelles salles, donc de poser de nouvelles tuiles. Donc c'est tout à fait possible qu'il reste encore des actions alors que la dernière tuile est posée.
Sont possibles pour arriver sur cette salle et marquer encore des bonus.
Exactement. Qui sont élevés. Donc c'est un des trucs dans le jeu auquel on doit faire vraiment attention, c'est de s'assurer d'avoir accès à cette dernière salle.
Oui, parce que sur les autres salles, c'est des bonus de 2, 1 et je ne sais pas, 3 peut-être. Voilà, mais là, on est sur du 12.
Je décompte une couleur, donc si j'arrive à être présent dans toutes les salles jaunes, bah, j'aurai chaque fois fait un décompte supplémentaire de ces salles. Donc ça fait quand même pas mal de points aussi. Mais c'est clair que les points qu'il y a sur la dernière salle peuvent faire vraiment la différence. Et c'est très difficile de gagner si on ne s'assure pas de l'accès à cette salle.
Connaissant Tikal 1, Tikal 2, en termes de mécanisme, en termes d'action possible, a l'air plus simple.
Ah, beaucoup plus simple, oui. Oui.
Il y avait 11 points, je crois, à dépenser sur...
Je crois 10 points d'action sur Tikal 1. Et donc les possibilités étaient un peu infinies. Donc si on était vraiment control freak, on pouvait passer quelques heures. Là c'est un jeu qui est épais, hein. On doit vraiment faire très attention. C'est un jeu pour gros joueurs a priori, mais le mécanisme est plus simple.
Qu'est-ce qui vous a plu justement dans le prototype ? Bon, vous avez tout de suite sauté sur l'idée de dire bon, c'est Tikal 2, mais finalement, quelle est l'étincelle qui vous a fait prendre ce jeu-là sous votre aile ?
Sous notre aile. Voilà. Je crois que c'est surtout ce parcours autour du plateau pour prendre les actions qui fait que j'ai envie de sauter, mais je me dis non, mais il va pas y aller, donc elle sera encore disponible, j'attends un tour. Parce que si je vais trop vite, je crame mes diamants et du coup c'est beaucoup plus difficile d'avoir une mobilité sur le plateau. C'est vraiment ce tour du plateau des actions qui nous a beaucoup plu en premier lieu.
Vous êtes en train de le développer depuis combien de temps ?
Ça fait maintenant presque un an. On a reçu le prototype en début mai de l'année passée. Voilà.
Vous avez une idée de ce qui reste à faire, de quand il pourrait sortir ?
Ah, il est prévu pour Essen cette année, ouais. Oui. Donc mois d'octobre, il sera là.
Bien, bon développement, Malcolm.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.